Nous sommes mercredi 20 novembre 2019, vous avez une grosse review bombe sur les bras et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Mecton.
Salut.
Bonsoir Antix.
Salut.
Et aujourd'hui, nous allons parler de plein de sujets extrêmement intéressants. On va commencer par du Pokémon. On va commencer par de la review bomb, puisque Pokémon c'est subi. Tout dernier Pokémon, il y a une review bomb. Donc on va essayer, alors non pas de faire une rétrospective de toutes les review bombes intéressantes, parce que nous ne savons pas Wikipédia, mais d'essayer de réfléchir au phénomène lui-même et à voir est-ce que ça a une utilité, est-ce que ça a permis de faire des choses de temps en temps, ou est-ce que finalement c'est juste du troll. Je pense que c'est la réponse. J'espère qu'on n'apportera pas vraiment de réponse. Je pense que ce sera le cas. Mais on va commencer tout de suite par notre petit. Alors, les restes du monde, on va dire, parce qu'on fait un petit peu un gros melting pot. Avec
comme
le retour
fois.
D'une rubrique que vous adorez tous, maintenant. C'est repartir en couille, mais c'est pas grave. On va commencer tout de suite avec le lancement de Google Stadia, puisque on est obligé d'en parler comme tout le monde.
Et c'est ça, parce que c'était hier.
Et voilà, on en a parlé, donc. Que dire de plus ? Comme prévu, ça a foiré, parce que
alors,
comme prévu, c'est un service en bêta.
C'est encore plus intéressant que ça, parce que Google avait promis énormément de choses intéressantes, notamment la possibilité de transférer ses sauvegardes ou de filer sa partie à un point précis.
Ouais.
Et ça fait clairement partie des trucs qui font que Stadia aurait été une proposition à part en termes de support de jeux vidéo. Pour rappel, Stadia c'est du jeu vidéo dans le cloud, c'est-à-dire qu'on paye un accès et on achète un jeu, et en fait on a juste besoin d'une connexion internet et d'un écran qui peut réceptionner le tout pour pouvoir jouer.
Et alors, c'est un petit peu plus qu'un écran, je me permets quand même, parce que ça fonctionne pas sur n'importe quoi.
Oui, alors ça c'était la promesse initiale.
Voilà, excusez-moi, c'était la promesse initiale, mais en fait on va voir que la promesse initiale a été bien trahie. Hein.
Et en fait, ce qui est arrivé le 19 dans les différentes rédactions qui ont pu tester, donc là on va faire plutôt une revue de presse, parce que je pense qu'aucun d'entre nous n'a commandé l'édition fondateur, je crois, un truc comme ça.
Ah non, ça va, j'ai une Ouya, ça me suffit. Hein.
Oh putain, il y en a qui viennent de nous balancer leurs échecs.
Ah, le mec, il a, ça y est. Alors c'est officiel, hein, le dojo l'affirme, Stadia is the new Ouya.
Ouais. Bah, après, derrière la puissance de Google, c'est pas des indépendants, donc à mon avis, Google, ils vont pouvoir le pousser un peu. Mais du coup, donc dans le pack qui était fourni aux rédactions et qui vaut la bagatelle de 120-130 euros dans le commerce.
130 euros.
Non, bah, du coup, un petit peu plus, parce que donc dans le pack, normalement, il y a la manette et un abonnement de 3 mois, je crois.
Alors, il y a un Chromecast Plus qui est la seule version pour l'instant du Chromecast qui est compatible. C'est-à-dire que le Chromecast Plus, c'est pas la toute dernière version, mais c'est genre une version un petit peu avancée quand même. C'est la seule qui peut permettre de jouer sur Stadia dans la qualité, on va dire, maximale.
Et sur télé, surtout.
Et sur télé. Et tu as la manette Stadia, qui apparemment est d'une qualité de finition qui est discutable, d'après tout ce que les gens en ont dit. Les journalistes ont dit, bon, c'est quand même pas fou. Et donc, voilà, c'est le pack fondateur, c'est ça. T'as 3 mois d'abonnement offert. Sachant que l'abonnement est à 10 euros par mois.
Et
tu as la manette et le Chromecast Plus.
T'as deux jeux inclus dedans aussi, donc il y a Destiny 2, et je ne sais plus lequel est l'autre, mais je crois que c'est aussi un jeu multijoueur.
Non, mais rien que ça, quoi. Le modèle économique du truc, moi j'avais pigé que c'était un abonnement, et puis à la Netflix, tu avais accès à ton catalogue de jeux.
Non, mais
tu
personne n'a jamais
pour
dit
avoir
ça,
le droit d'acheter un truc, quoi.
Alors,
et puis avoir le droit d'acheter un truc que tu ne pourras jouer que sur Stadia, c'est-à-dire que si le service ferme ou se casse la gueule, c'est fini, quoi.
Alors, c'est même encore plus compliqué que ça, c'est que là, actuellement, la seule offre disponible, c'est l'offre par abonnement qui permet d'accéder à la qualité maximum, donc 4K 60 FPS, mais dans quelques mois, il y aura une offre gratuite qui permettra de streamer les jeux dans une qualité moindre, donc je crois que c'est 1080p grand maximum en termes de résolution.
C'est ça, 1080p 60 FPS, pas de HDR activé.
Voilà, donc d'une qualité moindre. Mais dans les deux cas, que l'on ait un abonnement ou pas, il faudra payer ces jeux, et actuellement, il faut les payer au prix fort. Comme l'a dit très bien Mecton, c'est des jeux qui ne sont disponibles que sur Stadia. C'est-à-dire que ce sont des portages spécifiques, donc on n'a pas accès, ce ne sera pas accéder à tout son catalogue Steam comme on peut le faire avec un Shadow.
Un Shadow, oui, c'est exactement ce que j'allais dire.
Qui est un petit peu différent en termes de business model, mais bon, c'est pas le sujet. Et surtout, et ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui n'a évidemment pas été montré avant et qui est, on a pu voir dans les retours des tests, c'est que ce ne sont pas des versions PC qui sont disponibles, dans le sens où il n'y a pas de réglage graphique comme on peut le voir sur un jeu PC traditionnel.
C'est une version console, enfin c'est une version consolisée Stadia.
Bon, en gros, c'est plutôt un portage de la version console que de la version PC.
Oui, d'accord, c'est une version PC, mais avec des paramètres fixes, en gros.
C'est ça.
C'est à peu près ça.
Voilà.
Ça, c'est ça. Juste pour trace audio de tout ça, JBC qui demandait si on pouvait jouer sur téléphone. Donc aujourd'hui, ça ne marche que si tu as un Pixel, donc le téléphone de chez Google.
Et la dernière version ?
Et alors ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant c'est ça. Mais le plus drôle, c'est que la manette doit être branchée sur ton téléphone.
Ça sent quand même... Enfin, je vous prie de m'excuser
c'est
d'être...
C'est pas un... fini, c'est pas
non,
fini.
Non mais je vous prie de m'excuser d'être un petit peu... Google sort des services pas finis depuis 20 ans, ça les a pas empêchés d'être la 10e plus grosse capitalisation boursière du monde.
Parce que le service bon. Pub, il marche.
Alors, moi,
c'est le seul qui a besoin de marcher.
C'est un peu ça. Moi je pense qu'à un moment, ils finiront par mettre des coupures pub pendant les jeux. Parce que enfin, c'est des enfoirés. Le truc qui m'avait fait rigoler dans le test de Gamekult, qui est très bien d'ailleurs, je vous encourage à le lire, il est vraiment extrêmement bien rédigé, parce que le mec prend, je sais plus exactement qui est le rédacteur, mais...
C'est Nodius.
D'accord, ben voilà, il a pris un ton extrêmement froid et presque chirurgical pour analyser le tout, et c'est bien d'avoir des gens qui ne sont pas des technophiles hyper enthousiastes de la moindre connerie, et qui ne sont pas non plus des haters de Google. Il a vraiment froidement dit absolument tout ce qu'il y avait dessus. Et mon passage préféré, ça a été, bon, bah voilà, ils m'ont demandé ma géolocalisation, mon numéro de téléphone, mon adresse, mon machin, donc là, maintenant, de ta CB, donc, c'est en gros, ils savent où t'es, quoi, ils savent où tu te caches. Bref, enfin, c'est... Voilà, et de ce que j'ai compris, Digital Foundry, qui a commencé à jeter un petit coup d'œil, alors ils n'ont pas encore sorti officiellement leur review du truc, mais ils ont sorti quelques photos, notamment sur Twitter, ils ont dit, bon, bah, HDR, vite fait, en fait, c'est vraiment du HDR. C'est pas du vrai 10 bits. La seule remarque très positive que tout le monde a eue, c'est que, à condition que la connexion internet qu'on utilise pour le faire soit stable, le rendu est plutôt de bonne qualité. Et finalement, l'input lag est plutôt très raisonnable. Le souci, c'est que la gig. Alors, on va faire un tout petit peu de théorie du réseau. Donc, le temps de réponse, c'est le temps que vous mettez pour faire un aller-retour. Et la gig, en fait, c'est la différence de temps de réponse entre ces différents allers-retours. Et en fait, pour toutes les applications qui sont des applications en temps réel, que ce soit de la voix sur IP, ou du téléphone, hein, de la visioconférence et tout, ce sont des applications qui sont extrêmement sensibles à la gig. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau, si le temps de réponse est toujours le même s'il est relativement élevé, votre cerveau va s'y habituer. Par contre, si vous avez des variations de temps de réponse, là, votre cerveau, il va commencer à partir en couille. Et en gros, le gros problème de Stadia, c'est ça, c'est que si quelqu'un allume une PS4 sur le même réseau Wi-Fi que vous êtes en train de jouer à Stadia, c'est fini.
Ouais, d'ailleurs, ça c'est quelque chose que, dans les tests que j'ai pu lire, c'est vraiment ressorti uniquement dans le test de Gamekult. Alors j'ai eu celui des numériques qui n'est pas un test complet, celui du monde qui est plus un test grand public, donc c'est aussi super intéressant de le lire d'ailleurs, et celui de Gamekult. Et donc c'était ça qui ressortait, c'est que le mec disait, bah en fait, sur mon Wi-Fi avec personne en train de me squatter, enfin sur mon ADSL avec personne pour squatter, j'étais plus stable qu'avec ma connexion fibre chez moi avec ma famille, quoi.
Ce qui est malheureusement pas forcément étonnant.
Et d'ailleurs, ça ramène à un dernier point qui est plutôt intéressant, parce que ça va peut-être poser problème, c'est la fameuse manette. C'est une manette sans fil qui se connecte entre autres en Wi-Fi. Et de ce que j'ai compris, selon la configuration que tu utilises, et il me semble que c'est la configuration Chromecast sur la télé, tu ne peux faire que Wi-Fi. Et donc le souci, c'est que si quelqu'un d'autre est en même temps sur Wi-Fi, et ben tu peux avoir des déconnexions de manette en plein jeu.
C'est horrible.
Et je crois que c'était le mec de, je ne sais plus, je crois que c'était le mec de Gamekult qui expliquait qu'à un moment sa manette ne fonctionnait plus, ne comprenait pas pourquoi, et au bout d'un moment il a compris que c'était le Wi-Fi.
Mais enfin, ceux qui avaient vu dans Google Stadia l'avenir, le Messi et tout ça, moi, le lancement, c'est pas ça. Alors après, c'est toujours pareil. Oh, à tes souhaits.
À tes souhaits.
C'est toujours pareil avec les services de Google, ça, dans 6 mois, ça peut être un truc vraiment très bien. Maintenant, le problème, c'est que aujourd'hui, 130 € le pack de lancement, plus 10 balles par mois, donc 120 € par an, en prenant la version payante, évidemment, avec la version gratuite, ce sera peut-être un petit peu différent, plus le fait qu'il faille acheter les jeux, on arrive quand même rapidement au prix d'une PS4, quoi.
Bordel.
Et du coup, je vois. Enfin, à part le fait qu'on n'a effectivement pas besoin de se préoccuper de changer de matériel tous les 4 ou 5 ans si on est un joueur console. Alors si on est un joueur PC, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'effectivement, on change de matériel peut-être un petit peu plus souvent et encore.
Mais je pense que si t'es joueur PC, Stadia, ça t'intéresse pas en fait.
Et je pense que si t'es joueur console, en fait, c'est pas rentable.
Bah, c'est une des précisions qui était très intéressante dans l'article du Monde notamment. C'était qu'en fait les mecs n'arrivaient pas à comprendre à qui s'adressait Stadia parce qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui est plutôt casual va acheter une console parce que c'est clé en main, tu la branches, ça marche, bon, une fois que tu as fait les mises à jour. Et si t'es un gros hardcore qui a envie d'investir pour avoir des beaux graphismes et compagnie, bah, tu t'achètes un PC et en fait généralement tu l'as déjà.
Ben voilà, donc du coup, j'ai l'impression que ça vise une espèce d'entre-deux. Alors
Ou
peut-être que.
Tu as un Shadow qui est du cloud computing, c'est-à-dire que ton PC est dans le cloud, et en fait, tu n'as même pas besoin d'acheter tes jeux spécifiquement pour Shadow, puisque en fait, tu peux passer par ta librairie Steam.
Ben, Shadow, en fait, c'est un peu l'intermédiaire pas idiot, parce que finalement, c'est de la location de PC à distance.
C'est ça.
Donc c'est
Personnellement, je trouve
pas.
Shadow plus intéressant pour du gaming PC de qualité que Stadia, mais bon.
Bref, bon,
Le
on va
truc
passer.
rigolo, je termine
Oui.
avec ça. J'ai vu passer un mème. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Phil Harrison qui, du coup, s'est occupé du lancement de la PS3, du lancement de la Xbox 360 ou One, j'ai un
La
doute.
One,
One,
je pense.
La One, et maintenant de Stadia.
Ah ouais,
3
quand
sur
même.
3!
C'est moche.
C'est pas gentil de se moquer, surtout. Mais c'est toujours amusant. Bref. Comme me disait ma belle-mère, hein, c'est facile de se moquer, et comme je lui répondais, oui, puis c'est marrant aussi. Voilà, c'est quand même important. Bref. Très bien. Je vais vous parler très vite d'un petit mode pour GameCube qui va peut-être en intéresser certains, le SD2SP2. Alors qu'est-ce que c'est que cette horreur? Eh bien, c'est un mode qui a été créé par Citrus 3000 PSI, qui est un modeur qui a fait plein plein de choses, notamment pour PlayStation, pour GameCube, pour N64. C'est un mec qui est un modeur fou en quelque sorte, et qui a fait donc une extension pour brancher une micro SD sur le port Serial Port 2 de la GameCube. Alors le port Serial Port 2, si vous retournez une GameCube, en dessous vous avez un grand port carré tout en haut qui en fait est pour brancher le Game Boy Player. En dessous, vous avez un grand port rectangulaire qui est le port Serial Port 1. C'est là où on branche soit le modem 56K, soit l'extension, enfin la carte Ethernet, pour jouer en ligne, pour jouer en LAN, si vous avez du Mario Kart Double Dash par exemple. Et en fait, le port Serial Port 2, il n'a jamais été utilisé durant la vie de la GameCube. C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'y a aucun accessoire qui a été sorti officiellement qui s'en servait. Et là maintenant, il y a un accessoire non officiel. Donc l'idée, c'est vraiment une toute petite petite carte mère qui permet d'aller juste se brancher sur le port série, brancher une carte micro SD, vous refermez le cache par-dessus, c'est fait pour, c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour être complètement planqué, et après si vous démarrez Swiss, et pour démarrer Swiss c'est très simple, hein, on vous a donné une recette de cuisine sur le dojo, bah, quand vous démarrez Swiss, vous pouvez aller lire le contenu de la carte micro SD, donc lancer des homebrew, lancer des backups, etc., etc., etc. Voilà, je trouvais ça très rigolo, le fait qu'on ait enfin quelque chose à brancher sur le port Serial Port 2, ça fait que je vais pouvoir faire la GameCube Ultime Extreme Edition. C'est-à-dire que moi j'ai déjà un Game Boy Player, une carte Ethernet, je pense que je vais très rapidement rajouter le petit truc à souder, parce que ça m'amuse énormément.
Mortal Tower. Mortal qui est en train de nous faire le méga CD.
Ouais, c'est ça.
Moi c'est Pimp My GameCube, hein, très clairement. Mais voilà, enfin, du coup, le mode dont on avait parlé il y a 2 semaines... Zergy en avait parlé, c'est-à-dire qu'il remplaçait le lecteur DVD du GameCube. En fait, bah là, du coup, c'est quasiment inutile. Si vous avez juste ce petit truc-là, même sans modifier la console, vous pouvez lire à peu près ce que vous voulez. Donc, c'est quand même plutôt cool. Et extrêmement discret, ce qui est quand même un truc qui titille toujours les gens comme moi qui ont un petit peu des obsessions. Voilà, pas abîmer la machine d'origine, essayer de la conserver le plus en l'état possible. Là, c'est possible. Voilà, ça s'appelle SD2. SP2, donc c'est SD pour SD carte vers SP2 Serial Port 2. Malheureusement, il n'y en a plus de disponibles comme ça, mais les plans sont en libre accès, et voilà, tout est ouvert, tout est libre, les plans, le machin, le truc. C'est très simple à faire soi-même, il y a un condensateur à souder, une petite prise micro USB. Donc ça a l'air d'être micro SD, ça a l'air hyper simple à faire. Voilà, si ça vous intéresse, jetez un oeil. Si vous aimez la GameCube, on continue. Alors, la deuxième chose, c'est moi qui vais enchaîner, je suis désolé.
Ah si.
Mais c'est pas grave, on va terminer par le meilleur, en fait. Ah, ben voilà.
Ah, je suis dans le coin, je vous écoute.
Valve a eu un tout petit souci il y a à peu près 2 semaines sur les clés de Counter-Strike Global Offensive. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais Counter-Strike Global Offensive a un système de lootbox, comme c'est étonnant.
Ah oui, c'est celui où il faut scanner les caisses, c'est ça ?
Alors, en fait, tu ramasses des caisses en jeu, et pour les caisses, tu peux scanner pour savoir ce qu'il y a dedans.
Mm-hmm.
D'accord ? Donc, en Europe, hein, pas aux États-Unis.
Du coup, ce n'est plus une surprise, ouais.
Ce n'est plus un mécanisme de surprise. Mais pour pouvoir les déverrouiller, il faut aller acheter des clés. C'est-à-dire qu'en fait, les boîtes, tu les récupères, tu peux les collectionner, tu peux avoir des kilos et des kilos de boîtes, mais techniquement, elles ne servent à rien tant que tu n'as pas acheté les clés qui permettent de les ouvrir. Donc c'est quand même très scélérat comme mécanisme, parce que non seulement tu sais pas ce que tu vas récupérer dans la caisse, mais en plus, de toute façon, il faut que tu payes pour pouvoir la débloquer. Et il y a eu un petit problème. Apparemment, Valve a suspendu la vente des clés pendant un certain temps, parce que visiblement, Valve était en train de se transformer en grosse lessiveuse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui... alors, comme tous les objets de Counter-Strike Go, les clés peuvent être revendues sur le marché Steam. Et donc, visiblement, il y a des gens qui s'amusaient à blanchir de l'argent comme ça, c'est-à-dire des gens qui achetaient 100 000 euros de clés et qui, derrière, les revendaient sur le marché, à un petit peu moins cher. Bah, les gens qui achètent 100 000 euros de clés, visiblement, c'est quand même un petit peu bizarre. Surtout pour les revendre à perte derrière. Ouais. Donc,
pourquoi tu tousses ?
Non, mais moi, je trouve ça très rigolo. C'est-à-dire que non seulement t'as un mécanisme qui est quand même profondément immoral dans le principe, puisque c'est un casino, faut quand même être honnête, sans licence, sans contrôle de l'État, sans rien. Hein, c'est vraiment casino en ligne à ciel ouvert sans aucun contrôle. Mais en plus, derrière, ça sert à la mafia pour blanchir de l'argent, donc je pense que ça commence à devenir très très amusant, il est vraiment temps d'arrêter. Voilà. Ça m'a fait rire, alors c'est pas officiel, hein, le fait que ce soit une lessiveuse argent sale, mais visiblement, enfin... Ce qui se dit dans les coulisses, c'est oui, quand un mec achète 100 000 euros de clés pour les revendre à 10% moins cher sur le store immédiatement, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. La petite dernière, et après je repasse la main.
D'ailleurs, juste pour finir sur cette histoire, ça fait un moment qu'il y a le marché de Valve. Je sais pas s'il y en a qui jouent sur Steam, mais j'espère pouvoir vendre vos cartes régulièrement, parce qu'il y a des gens qui sont quand même prêts à les payer, ce que je trouve toujours hallucinant.
Ah oui, mais je me fais des jeux gratos comme ça.
Ah, mais moi j'ai déjà eu des réductions de 2-3 euros, hein, ce qui est pas dégueu. Hein.
Mais
je crois que c'est même pas la première fois qu'il y a des soucis sur le store de Valve avec ces jeux à lootbox, genre Team Fortress 2 et Counter-Strike. Et il me semble que ça fait aussi partie des raisons, le fait qu'il y ait des trucs louches qui se passent, pour lesquels l'hôtel des ventes de Diablo 3, qui permettait d'acheter du matos légendaire en argent réel, a été fermé par Blizzard, je crois, un an après la sortie du jeu, un an et demi,
c'est
quelque chose comme ça.
Un an.
Le truc qui a juste pourri l'équilibre de son jeu pendant un an, quand ils sont enfin décidé de le retirer, c'était vachement mieux. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Les gens continuent à faire les mêmes erreurs, je pense.
Bah, c'est-à-dire qu'en plus d'être immoral, c'est potentiellement dangereux, voire carrément illégal. Et ça, enfin voilà. Je pense que si Valve a suspendu le truc, c'est parce qu'il y a le FBI qui a dû leur taper sur l'épaule en disant non, les gars, faut peut-être arrêter des conneries là.
Mais la conclusion de cette histoire, c'est que c'est quand même bien fait pour la gueule à Valve, parce que bon, il y a un moment quand tu fais de la merde.
Ben écoute, de temps en temps, j'aime à croire que de temps en temps, le grand karma peut venir te mettre un grand coup de latte dans les boules. Et là, c'est ce qui est arrivé. Et ça fait quand même plaisir de temps en temps. C'est pas souvent que ça arrive, mais quand ça arrive, il faut s'en réjouir.
Exactement.
Voilà, je vais vous donner aussi quelques petites nouvelles des speedruns de Super Mario 64. Pour une raison très simple, c'est qu'il s'est passé 2 événements extrêmement intéressants il y a à peu près, alors respectivement 1 mois et hier, donc c'est super récent. Alors en fait, Super Mario 64, c'est toujours un des jeux les plus runnés dans la communauté du speedrun, donc les gens qui essayent de le finir le plus vite possible. Et aujourd'hui, il y a 5 catégories principales. Il y a le 120 étoiles, qui consiste donc à finir le jeu à 100%, donc ramasser toutes les étoiles du jeu. C'est aujourd'hui la catégorie qui est la plus longue, je crois que le record du monde est à un petit peu plus de 2 heures.
Mais c'est la meilleure catégorie. Okay.
C'est la catégorie... pas forcément, c'est la catégorie reine, un petit peu, mais pas forcément la plus intéressante.
Bah moi j'avoue que vu que c'est celle qui est pas la moins glitchée, parce que je pense qu'il y a des glitches, mais comme finalement le mec fait quand même l'effort de récupérer toutes les étoiles du jeu, tu vois quand même beaucoup d'astuces qui sont assez folles pour récupérer des trucs assez complexés en temps normal, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est là où tu vois le plus de manip un peu complètement hallucinante, de la chance, du décor, des ennemis, enfin il y a des trucs un peu
donc je suis pas un très grand fan du backward jump qui fait que tu sautes tous les étages. C'est super impressionnant d'avoir trouvé un glitch comme ça, mais en termes de spectacle, je trouve la 120 étoiles plus intéressante de mon côté.
Alors attends, wait, there's more. Attention, tu vas voir.
I'm listening.
C'est ça. Donc, la catégorie 100 étoiles, il y a la catégorie 70 étoiles, qui consiste donc à finir le jeu de manière presque normale, puisque je vous rappelle que dans Super Mario 64, il fallait avoir au moins 70 étoiles pour pouvoir atteindre le boss final. Donc ça, on va dire que c'est la catégorie run normale. Il y a la catégorie 16 étoiles. Catégorie 16 étoiles, en fait, elle est née du fait que à un moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait franchir la dernière porte avec justement le long backward jump glitch qui permettait donc de sauter en arrière et de monter les escaliers, ouais. Voilà, de baiser le système qui faisait les escaliers infinis. Mais pour ça, il fallait ouvrir la dernière porte, enfin, il fallait ouvrir au moins la première porte qui faisait 16 étoiles. Donc cette catégorie est restée, c'est aujourd'hui une des moins runnées, parce que finalement, c'est un peu trop intermédiaire. On va dire ça comme ça. Il y a une catégorie 1 étoile, qui consiste donc à récupérer 1 étoile, puis en fait à tricher sur tout le reste du jeu, hein, vraiment à casser tout le reste du jeu, et relativement récemment, 3-4 ans, il y a une catégorie 0 étoile, oui ça existe, donc où les mecs peuvent littéralement finir le jeu sans avoir aucune étoile. À part la dernière, celle de Bowser, évidemment, du boss final.
Et là, c'est le jeu, il est mis par terre, il est abattu 3 fois, on le retourne, on l'éventre, on rentre à l'intérieur, on refait un schmilblick, on ressort, et après on le rebalance sous l'ambulance.
Et bah tu crois pas si bien dire. Il se trouve qu'il y a un runner qui s'appelle Doski, donc D-O-W-S-K-Y, vous pouvez aller le voir sur Twitch, hein, c'est twitch.tv/Doski, et de temps en temps, il fait des trucs assez sympas, qui a battu dans la même journée le record du monde du 1 étoile, et il l'a pas battu d'un petit peu, il l'a battu de 6 secondes. Alors 6 secondes sur un run total qui fait 6 minutes 36, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, mais c'est gigantesque. Et quand vous regardez le speedrun, en fait, basiquement, l'exécution est quasi parfaite. C'est-à-dire qu'à moins de trouver un autre glitch qui permette d'aller faire la catégorie 1 étoile, là, globalement, le mec a mis un record, il y a peut-être une seconde à gagner, grand maximum. Donc c'est déjà très impressionnant. Le mec va prendre une pause pipi, et c'est littéralement ça. Le mec a été pissé, il s'est dit « Bah tiens, je vais peut-être tenter la 0 étoile », et du premier coup, boum, il fait tomber le record de la 0 étoile. Donc le gars a 2 records du monde dans la même journée, à 20 minutes d'intervalle.
Comme ça, easy.
Tranquille. Et hier, donc, le mec s'est dit « Tiens, je vais tenter la 16 étoile pour le LOLs », et résultat des courses, il est recordman du monde de la catégorie 16 étoiles. Donc le gars annonce en toute tranquillade sur son Twitch, bah écoutez, demain j'attaque le 70 étoiles et on va bien voir ce qui se passe.
Le mec il chill quoi.
Le mec est là, c'est vraiment, enfin c'est un peu l'alu, et c'est la première fois depuis, mais je me demande même si c'est pas la première fois, que c'est la même personne qui a les 3 records du monde pour 3 des 5 catégories, et le mec est chaud pour aller dire je vais chercher les records du monde pour les 2 autres. Donc si ça se trouve, ce gars-là va se retrouver à avoir les 5 records du monde de Super Mario 64 au même moment. C'est quand même un événement qui n'arrive... Enfin, c'est un alignement de planètes qui n'arrive pas tous les jours. Et le pire, c'est qu'il a relancé un petit peu la compétition sur certaines catégories. C'est-à-dire que le 1 étoile, le mec qui est maintenant deuxième et qui avait le précédent record du monde, il l'a quand même très 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 mauvaise. Donc il s'est refoutu sur le truc en mode « Bah tu vas voir mon gars, moi je vais te niquer. » Donc là, les mecs, ils sont partis, ça ne m'étonnerait pas. D'après tout un tas de gens, il est fort possible qu'il y ait des records qui tombent très rapidement, et les mecs ont l'air de dire que le 16 étoiles en moins de 15 minutes ou 14 minutes, je me souviens plus exactement, mais que là les mecs étaient très 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 chauds, et les 10 secondes qu'il y avait à gratter, ils allaient les gratter, quoi.
Putain, vivement le film.
Ah ouais, non mais c'est ça quoi, c'est en matière de speedrun, c'est, enfin, j'aime beaucoup parler de speedrun, mais là on est vraiment dans un événement assez exceptionnel. Donc surtout le gars qui, bon, bah, on va peut-être faire le 0 étoile maintenant, hein, pour le LOLs, hein, après tout, pourquoi pas, je suis chaud, et boum, nickel, tranquille. Voilà, et maintenant, c'est la séquence émotion.
Alors juste avant, ça me rappelle que j'ai découvert qu'il y a pas longtemps, il y avait un run nipple % de Mario Odyssey.
C'est parfait.
Le run, ça consiste à mettre Mario en maillot de bain le plus vite possible.
C'est parfait, c'est absolument parfait. Voilà des beaux records du monde.
Mais c'est une bonne transition vers la suite, hein.
C'est une bonne transition puisque c'est l'heure d'Actu Nippon, Actu Freepon avec Antix.
Votre rubrique favorite qui arrivera quand je trouverai des idées, en fait. Là, on en est une fois par mois, je suis pas mal, hein. Et donc pour vous, je suis allé un petit peu rechercher sur Kotaku, parce que c'est quand même le meilleur endroit pour ce genre de news, des trucs intéressants, et je suis tombé par le plus grand des hasards, c'est quelque chose qui date du mois de mai quand même, hein, donc j'ai un peu 6 mois de retard, sur le fait que maintenant au Japon, on peut faire des mariages Pokémon.
Putain.
Et c'est 100% officiel. Bon, en même temps...
Putain, c'est endossé par Nintendo et Game Freak, quoi, les mecs assument.
Ah, c'est la Pokémon Company. Et... Alors, je vous conseille d'aller, voir l'article de Kotaku. Donc, vous tapez Pokémon Wedding Kotaku.
Putain, sur Google. Lien, hein.
Sur Google, vous verrez, vous trouverez très, très facilement. Donc, c'est apparemment, c'est une société qui s'appelle Escrit, ou Escrit, je sais pas comment ça se prononce, qui est spécialisée dans les cérémonies de mariage, qui a fait un partenariat avec la Pokémon Company pour ça. Et donc, durant le mariage, donc c'est une cérémonie, tout ce qu'il y a de plus occidental, avec une fille en robe de mariée blanche et un homme avec un smoking noir. Donc du coup, je suis très déçu qu'il n'ait pas des tenues de dresseur Pokémon. Mais donc sur la photo, vous pourrez voir qu'à côté de chacun des deux heureux mariés, il y a deux Pikachu. Eux aussi habillés comme s'ils allaient se marier.
Oh, bordel de merde.
Donc avec des personnes à l'intérieur, parce que ce sont des, vous savez, les, c'est comme les Mickey à Disneyland.
Non mais la tête de la mariée, elle est morte à l'intérieur.
C'est ça.
Je suis désolé, c'est mon cum qui voulait faire un mariage avec Pokémon.
Et donc si avoir Pikachu mâle et Pikachu femelle en maître de cérémonie ne vous suffit pas, vous allez avoir des plats thématiques et un gâteau qui, j'avoue, est plutôt joli. Voilà, donc je conseille d'aller regarder un cycle.
Mais tu sais, j'imagine la tête des mecs au marketing quand on leur a soumis l'idée, quoi.
Bah, visiblement, ils ont dû replonger la tête dans le saladier de coke et se dire que c'était une bonne idée, quoi.
Mais c'est, franchement, le pire, c'est que je regarde les photos et les mecs n'ont pas l'air de se foutre de ta gueule. Ils ont l'air de vraiment de faire un effort en termes de déco et compagnie.
Bah, apparemment,
c'est juste que c'est 100% Pokémon, quoi.
De ce que j'ai compris, le marché du mariage secondaire, entre guillemets, alors c'est pas du mariage secondaire, c'est qu'en fait, au Japon, on se marie... officiellement au temple ou je sais pas quoi, donc il y a un mariage officiel, et en fait il est très fréquent, enfin, les Japonais aiment beaucoup faire une deuxième cérémonie qui soit justement pas une cérémonie officielle, et c'est comme ça que t'as beaucoup de Japonais qui font des mariages à l'occidental, où en fait ils reprennent exactement les mariages comme t'as dans les films américains où t'as le prêtre qui va dire machin tout ça jusqu'à ce que la mort vous sépare, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe au Japon,
enfin, c'est le prochain le prêtre.
Putain, stop. Mais voilà, donc le marché du mariage secondaire, enfin du second mariage que tu fais un peu pour le délire avec tes potes derrière, c'est un vrai marché, donc pourquoi pas, hein. Après tout, tu peux faire... Voilà, on attend que Nintendo fasse donc sur le thème Mario Kart, avec un Mario et un Luigi habillés en mariés. Parce qu'après tout, on a eu Mario en marié, on pourrait très bien avoir Luigi. Hein.
Moi, j'attends les enterrements Fire Emblem. Avec la petite musique triste au moment où t'enterres le cadavre.
Voilà, c'est parfait. Bon, stop. Cette rubrique a duré beaucoup trop longtemps. Et oui, c'est déjà la fin de Actu Nippon, Actu Freepon.
On se revoit le mois prochain, si là, mais les Japonais s'arrangent sur passage, j'en suis sûr.
Ah non, mais là, je suis certain que si on cherche bien, on trouvera. Après tout, nous avions déjà trouvé un butt plug Pikachu, je vois pas pourquoi.
Oui. Putain, j'ai des flashbacks.
Stop.
Non, mais faut arrêter là. Faut arrêter, monsieur mortal. Tes enfants nous écoutent sûrement,
pause,
les vôtres principalement.
La pause, vite. La pause. Donc, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Luigi's Mansion 3.
Un jeu qui défonce.
Et oui, c'est
bien.
Le sous-sol 2, qui est donc le Boiler Works, c'est-à-dire...
C'est la pire zone du jeu.
La chaufferie. Non, c'est pas la pire zone du jeu, mais c'est la zone où il y a une musique un peu country. Tout
par contre,
elle
est cool,
bizarre.
La musique, ouais.
Et voilà, alors par contre ça dure très très peu de temps, ça dure juste 1 minute 30, donc on se retrouve tout de suite après et on parlera de Pokémon, bites et couteaux. C'est parfait. Et nous voilà de retour. Et donc on a... donc c'était Luigi's Mansion 3, le sous-sol numéro 2. Donc vous avez vu cette musique qui nous vient directement du Bayou, en Louisiane. Enfin non, elle vient du deuxième sous-sol.
De la chaufferie, ouais.
De la chaufferie. Et nous allons donc parler de Pokémon Bit et Couteau. On va commencer par parler du jeu avant de parler d'un autre phénomène qui concerne le jeu. Donc on va essayer de parler d'abord du jeu et ensuite on va parler un peu de autour du jeu et ça va nous amener à un autre sujet. Vous allez voir, ça va être des transitions complètement fofolles qu'on n'aura même pas besoin d'expliquer, ce qui est quand même incroyable. Totalement ouf.
Alors,
incroyable.
Vu le peu qu'on a joué du jeu, je pense que ça va être relativement rapide.
Oui, alors je précise effectivement, moi je n'y ai pas joué et je m'en bats les couilles. Antix n'y a pas joué et il s'en bat les couilles.
Alors moi j'ai juste regardé une demi-heure un pote jouer et un ou deux let's play pour me faire une idée. Hein.
Voilà, et Mecton par contre, lui,
alors
c'est
moi,
un vrai Pokéfan.
Voilà. Oui.
Oui.
Et oui, peut-être pas autant
les
que
jeunes,
plus jeunes,
à savoir Drosgar et Galaxies, sont des tirs au flanc qui étaient, alors je cite, beaucoup trop beurrés pour venir au dojo bar. Hein, voilà, on balance.
Et ce sont des étudiants, ils n'ont pas d'argent.
Donc ils le pirateront, très bien.
C'est ça, Pokémon pirate.
Voilà, donc Pokémon Bit et Couteau, donc c'est un Pokémon.
C'est un Pokémon de la série principale, vous serez en terre inconnue. J'y ai
joué. Bah non, justement.
C'est vrai?
Bon, c'est une nouvelle région.
Je vais pas expliquer tout le système de combat et tout, parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé là-dessus. Du tour par tour, classique. Même s'il y a quelques trucs, moi j'y reviendrai après. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le jeu avait fuité sur internet quelques temps avant, ce qui fait que les gens ont pu énormément parler de l'aspect technique. Alors oui, c'est pas le plus beau jeu du monde. Oui, ça manque un petit peu de finition, c'est-à-dire qu'il y a certains combats qui se déclenchent où on se dit là il manque un arrière-plan un petit peu particulier. Oui, les animations elles sont pas aussi bluffantes que ce qu'on nous avait vendu. Enfin, en même temps, on sortait de Luigi's Mansion.
Ce que j'allais dire, après Luigi's Mansion 3, qui est quand même
chaud.
Une belle tarte dans la gueule, c'est très chaud. Hein.
Mais voilà, j'allais dire, sur les animations, déjà, Pokémon Let's Go donnait une idée de ce qui était faisable et ce qui n'était pas faisable.
Voilà, c'est similaire, et honnêtement, alors ça, c'est une phrase que je pique à quelqu'un chez qui j'ai lu une autre critique. Tu mets le jeu à côté de Dragon Quest 11, les animations, elles sont de la même qualité. Même dans Dragon Quest, les trucs étaient très statiques et là, ça avait dérangé personne. Bref.
Oui, donc on va dire que l'aspect technique est discutable, mais c'est pas non plus la catastrophe
interstellaire
qui nous avait été vendue.
Voilà.
D'autant que Pokémon, quelle que soit l'époque, depuis le début, c'est jamais des foudres de guerre technique. À part peut-être le noir et blanc sur DS, qui a un niveau de finition de DS, j'avoue, qui est assez spectaculaire, je trouve.
Il y avait un petit saut, il y avait un truc intéressant dans celui-là aussi, j'en parlerai après. Enfin bref, oui, comme tu dis, c'est pas une série qu'on sort pour s'en prendre plein les yeux. On y joue pour autre chose.
Et puis c'est Game Freak, faut pas oublier que ça reste un petit studio, même si, à mon avis, très largement les moyens.
Un petit studio indé qui vend quelques centaines de millions de jeux, quoi.
Sont indés, il faut pas oublier qu'ils sont quand même relativement indépendants vu qu'ils sortent de jeux sur d'autres plateformes avec d'autres éditeurs que Nintendo. Par contre, Pokémon, ça appartient à un conglomérat, donc oui, c'est autre chose. Mais voilà, faut pas oublier que Game Freak, c'est pas non plus, c'est pas Electronic Arts, c'est pas les studios de Ubisoft un peu partout dans le monde, quoi.
Et donc voilà, j'évacue cet aspect technique parce que fondamentalement, honnêtement, une fois que t'as la manette en main, le jeu il te colle le smile et tout ça, tu t'en branles. Alors il te colle le smile pourquoi ? Parce que la direction artistique, elle est vraiment cool. Tiens, il y a plein de petits détails de partout. Si vous aimez l'univers, vous rentrez dans une baraque, il va y avoir plein d'objets, de petits cadres accrochés au mur, des posters, enfin des trucs vraiment. Enfin, tu sens qu'ils ont taffé, ils ont bossé sur les détails. Donc le jeu se passe dans une région qui est inspirée de l'Angleterre. C'est facile à voir, hein, la carte de Galar, tu prends la carte de l'Angleterre, tu la retournes et boum, tu l'as. Et du coup, cette ambiance anglaise, ils l'ont traduite un petit peu partout. Donc ça en fait une vraie nouveauté, quoi. Tu explores une vraie nouvelle région.
D'ailleurs, il y a un truc qui m'avait étonné sur la traduction française, c'est que justement tous les noms étaient restés en anglais. Genre, je crois que la forêt de début, c'est un truc genre la forêt
Shadow,
Sherwood, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Genre vraiment.
Shadowwood.
Shadowwood, mais tu vois, il y a encore ce côté très, très anglais. Enfin, je pense que c'est un truc qui se ressent pas mal dans le scénario de ce que j'ai pu voir. C'est que c'est très orienté, très légende arthurienne, en fait, en termes d'ambiance aussi.
Oui.
Et je
Et
pense que c'est une volonté aussi.
donc ça s'appelle, c'est Galag, c'est ça? Galag.
Galar. C'est très écossais dans
Galar.
l'ambiance, en
Et
fait.
donc le Galarxit, du coup, on en est où?
Oh putain!
Alors, oui, dans le jeu, ça se traduit plus ou moins par ce que les fans ont appelé le Dexit. Donc, le fameux, il y a la moitié du Pokédex qui a dégagé. Et pareil, j'y reviendrai. Donc, cette ambiance anglaise, en fait, si vous aimez le foot, vous allez encore avoir plus la banane parce qu'il y en a de partout, quoi.
Oui, c'est
Si
un grand classique, un grand classique en Angleterre.
les arènes, c'est des stades, les gens rentrent donc sur une pelouse avec les marquages au sol. Avant de rentrer dans une arène, on te demande de mettre ton uniforme de combat. Basiquement, c'est un t-shirt et un short. Hein.
Oui, c'est un maillot de foot.
D'accord, c'est un maillot de foot.
J'ai vu qu'on te demandait même de mettre ton numéro sur le
Alors,
maillot.
Ouais, tu choisis ton numéro. La team de méchants, basiquement, c'est des hooligans.
Il s'appelle la team Yell, d'ailleurs, je trouve ça
Yell,
encore
la
plus
team
génial.
gueule, ouais.
C'est la team gueule, quoi. C'est vraiment des punk hooligans, quoi. C'est ça qui est génial,
C'est
enfin, en
ça.
termes de design. Hein.
Les musiques sont cool. Elles sont vraiment très très cool. À tel point que t'as une petite musique au moins dans la première arène. Là, je suis à l'entrée de la deuxième, pour tout vous dire. La musique pendant le combat, à un moment, tu entends des chants de supporters. C'est génial.
Oui, d'ailleurs, c'est
C'est énorme, ça, quand même,
le truc
dans
qui
le
est,
principe.
c'est le truc qui est cool en termes d'ambiance, c'est que ils ont vraiment mis le côté combat d'arène à un niveau sport national, donc c'est dans un stade de foot, et pour aussi pour avoir toute l'ambiance, et t'as les spectateurs, et donc t'as les chants de supporters en fond, ce que je trouvais génial en fait quand j'ai écouté, je fais, mais oui, mais dans un stade de foot, ça marche super bien en fait.
Donc voilà, il y a toute cette ambiance qui est vraiment cool. Alors après, pour passer un peu sur le gameplay. C'est à mi-chemin entre la formule classique qu'on connaissait jusque-là et les petites évolutions qu'avait commencé à apporter Let's Go. Donc ça veut dire, on voit les Pokémon sauvages sur la carte, mais on peut aussi avoir quelques rencontres aléatoires dans l'herbe. Il y a pas mal de facilités qui sont introduites, donc franchement des trucs qui étaient relous quand on refait les anciens épisodes. Le fait qu'il faille retourner un PC pour accéder aux boîtes qui permettaient de retravailler son équipe. Là, non, rapidement, on a un PNJ qui nous file un objet qui fait que n'importe où on accède au menu, boum, on accède au PC et on peut changer son équipe. Pas besoin de faire des allers-retours juste pour ça. Tu as régulièrement sur les routes ou dans les passages un peu chauds qui ressemblent à des donjons. Des cavernes, des mines, des conneries comme ça, tu vas régulièrement rencontrer des soigneurs. Donc voilà, pareil, un PNJ, tu lui parles, tiens, laisse-moi t'aider, boum, il te soigne. Pareil, ça t'évite de te taper les allers-retours qu'on se faisait avant pour soigner son équipe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le PNJ qui te permettait de retrouver des capacités que tu avais effacées. Il est plus planqué dans une maison particulière où il faudra se rappeler où il est et y retourner si on veut refaire quelque chose. Non, là maintenant il est dans tous les Pokécentres. Donc ça c'est vraiment appréciable quand tu sens qu'ils ont essayé de fluidifier un peu la formule. Que dire de... Ah oui, il parlait du Poké Service aussi. Donc c'est des petites quêtes de mercenaires qu'on peut déclencher dans les Pokécentres. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Ça sert autant que les quêtes de mercenaires dans un Xenoblade 2. Pour ceux à qui
Oui,
ça
donc
parle.
ça sert vraiment absolument à rien.
Bon, ça ramène de
Ouais.
la thune, quoi.
C'est ça. C'est juste XP et petits objets à la con, quoi. Alors, la vraie nouveauté, c'est les terres sauvages. Donc, c'est cette espèce de zone ouverte. Qui avait été montré au dernier E3, je crois, je sais plus, bref. C'est en gros la grosse tentative de renouveau de cet épisode. C'est-à-dire que tu as toujours ce découpage en ville, route, ville, mais tu as cette zone terre sauvage au milieu qui est plus ou moins la zone MMO du jeu. Alors on la reconnaît tout de suite parce qu'elle est beaucoup plus vide que les autres. Tu n'as plus du tout d'effet de caméra comme tu peux avoir sur les routes pour te présenter les décors de manière un peu stylée. Donc tu les as pas tout simplement parce que là la caméra c'est toi qui la contrôle. Et donc dans cette zone, tu as des qui est relativement grande, mais c'est pas ouf non plus. Enfin, elle paraît grande parce qu'elle est découpée en sous-régions. T'as un bout de plaine, un truc avec de l'eau, un truc avec de la neige. Je pense qu'ils testent la formule. C'est pour ça que c'est peut-être pas forcément super original en termes de décor à cet endroit-là, mais bref. Dans cette zone, tu vas rencontrer des Pokémon en liberté et les fameux raids. Et là où je dis que c'est la zone MMO, c'est que si tu joues avec ta connexion active, tu vas croiser des avatars d'autres joueurs avec qui tu pourras discuter vite fait pour récupérer des objets, mais surtout participer au raid contre les Pokémon Dynamax, j'explique après, à plusieurs. Si tu es tout seul ou que tu joues sans connexion, c'est pas grave, hein, tu as des IA qui vont compléter ton équipe.
Mais c'est un vrai, au sens tu croises des, enfin tu croises alors, des tu crois... vrais joueurs ou tu non, croises des avatars de joueurs plus ou moins autoguidés.
Je pense que c'est des avatars de joueurs.
D'accord, donc c'est pas des vrais joueurs, c'est simplement, enfin c'est des vrais joueurs et leurs vraies équipes, mais c'est pas eux qui jouent.
C'est ça. Alors ça je te parle du mode online. A priori, en mode local, chacun se voit et...
Oui, ça me paraît logique.
Chacun cohabite dans la même instance du truc, quoi.
Mais après, c'est peut-être pas totalement idiot. C'est-à-dire, finalement, tu croises des dresseurs un peu random, qui ont des équipes un peu random, mais qui ont vraiment été équilibrés dans la vraie vie par quelqu'un qui joue avec toi, parce que si les mecs jouaient en réalité de leur côté, ils pourraient se déconnecter et ce serait peut-être un peu relou.
Sachant l'impression que j'ai, c'est quand même que quand tu rentres dans cette zone, tu rentres sur un serveur et tu vois l'activité des joueurs à proximité. Donc si tu as quelqu'un à l'autre bout du monde qui est à peu près dans la même zone et que le jeu a décidé qu'il allait vous faire cohabiter, tu vois son activité. Même si tu vois pas son avatar physiquement, tu vois ce qu'il a fait.
D'accord, donc tu vois les trucs qu'il a chassés, les monstres qu'il a combattus, ce genre de
choses. C'est ça ce qu'il est en train de faire, s'il veut te filer un coup de main, s'il veut te proposer un échange. Dans cette zone, on découvre l'utilité du bouton fuir. C'est un truc qui était là depuis très longtemps, mais que perso, j'avais jamais utilisé.
Ah bon, t'en avais pas marre au bout du 50e Nosferatu dans la Mont Sélénite?
Ouais, non, tu le one-shotais, c'était pas grave. Là, en fait, comme tu peux croiser de tout, tu peux y compris croiser des trucs qui sont 20 niveaux au-dessus de toi. T'as plutôt intérêt à te barrer, quoi.
Façon Xenoblade.
Ça a l'air sympa. Bah oui, sauf que Xenoblade, fallait vraiment que tu cours vite des fois.
Hein. Bon, bah, des fois, t'avais pas le temps de courir, il t'a mis un point, t'es mort.
Ouais, c'est un peu ça.
Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Oui, donc niveau combat, donc ça reste du tour par tour, sauf que je sais pas, je sens que la stratégie a été un peu plus mise en avant du fait que les talents de chaque Pokémon te sont annoncés pendant les combats et tu vois directement l'effet qu'ils vont avoir. L'exemple que je peux prendre sans trop spoiler, ce serait genre rapidement, on a un Pokémon qui a un talent qui s'appelle, je sais plus, Pression ou quelque chose comme ça. Quand tu le sors, le Pokémon qui est en face de toi ne peut pas utiliser son objet.
Ça c'est écrit à l'avance dans le truc, il pourra pas utiliser son objet.
Au moment où il sort, t'as vraiment l'indication à l'écran. Avant, ça existait ce genre de truc, mais c'était pas aussi clair. Et donc oui, le Dynamax, donc les choses qui peuvent être faites pendant les raids et pendant les arènes, ça va être en gros donc transformer ton Pokémon en Godzilla, quoi. Et c'est quelque chose que tu ne peux faire qu'une fois par combat et ça ne dure que 3 tours.
Mais attends, c'est-à-dire que dans n'importe quel combat, tu peux transformer ton Pokémon en Kaiju?
Non, juste dans certaines zones. Dans certaines zones du jeu, sur une route où tu croiseras un PNJ lambda, là ce sera combat classique. Mais pendant les combats de boss, en gros, donc que ça soit en raid ou contre les maîtres d'arène, tu as cette possibilité et ça se joue un petit peu comme un joker. C'est-à-dire qu'il faut le placer au bon moment pour pas le gâcher, quoi.
Mais globalement, le mec d'en face a le même truc.
Le même d'en face a le même.
Ah oui, donc lui aussi peut avoir un Kaiju, quoi.
Donc lui aussi, voilà. Donc il faut le sortir au bon moment.
Faut pas te chier dessus, quoi.
Parce qu'une fois que tu l'as cramé, il est cramé. C'est-à-dire, si tu le poses sur un Pokémon du mauvais type et tu te dis « Merde, j'aurais peut-être dû changer mon attaquant avant de sortir ça », c'est mort.
Mais tu peux pas avoir un objet qui te permette de le recharger? Enfin, c'est peut-être plus tard dans le jeu, tu vas me dire.
Peut-être, mais je pense que ça niquerait le... Ça flinguerait l'intérêt de la chose.
Ça niquerait le côté all-in du truc, finalement.
C'est ça. Et donc, oui, j'essaye de ne pas spoiler parce que Game Freak a eu la bonne idée de ne pas trop en montrer. ils en ont montré suffisamment pour attirer l'intérêt, mais pas la totalité du jeu comme ça avait pu être le cas sur Soleil et Lune au moment où ils sortaient. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu un treehouse d'une heure et demie où en gros ils ont montré toutes les nouveautés du jeu, et au moment où il est sorti, il y avait plus rien à découvrir. Donc, une fois qu'on lance celui-là, si comme moi vous avez bouffé les premières générations, picoré par la suite et que vous y revenez tout doucement, on retrouve un peu ce plaisir de découverte. Et alors pour en profiter à fond, il fallait avoir coupé Twitter une semaine avant la sortie.
Oui, forcément.
Et il y a d'autant plus ce sentiment de découverte que comme sur Blanc et Noir, la première génération, elle est pas autant mise en avant que ce qui avait pu être fait dernièrement. Ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que donc tu as des fans qui gueulaient que la première génération était trop mise en avant, et maintenant qu'elle l'est moins, ils gueulent qu'elle ne l'est pas assez.
Et d'ailleurs, dans le cas de Blanc et Noir, c'était même allé plus loin, c'est qu'ils avaient fait je sais plus
ils
combien de nouveaux Pokémon.
Nouveaux.
Et en fait, tu ne pouvais voir que les nouveaux Pokémon tant que tu n'avais pas terminé le jeu une fois. Et les gens en verraient
tous nouveaux. Voilà. Donc on y viendra après, mais c'est une fanbase qui est assez compliquée, mine de rien. Quoi. Bref.
Casse-couille, hein, comme
ou moins
on dit dans
que celle de Zelda.
Ouais, je sais pas.
Ça dépend. Alors, celle de Zelda qui kiffe la timeline, oui. Celle de Zelda qu'on a rien à foutre, ça va.
Et voilà, donc bref, c'est un épisode de la série principale qui essaye des nouvelles choses timidement pour pas trop froisser son public, mais qui tu sens quand même qu'ils essayent, et que certainement le prochain fera encore un petit pas de plus. Et voilà, pour moi le prochain pas qui pourrait être intéressant, c'est faire un scénario un peu plus intéressant.
Parce que là, ce que t'es en train de dire, c'est que s'il y avait un troisième jeu dans cette génération-là, par exemple,
je sais pas,
bouclier, épée, épaulière.
Pokémon
lance, et puis on retrouve
les emblèmes.
Pokémon pantoufle sacrificiel de Lothar Ier, donc. Ou alors le fabuleux Pokémon chapeau de paille, hein, parce que je rappelle que dans Dark Souls, une des armures les plus puissantes est un chapeau de paille. Merci beaucoup, Dark Souls. Tu m'as déjà cassé les couilles aujourd'hui. Bref, donc s'il y avait une troisième itération, il pourrait peut-être arriver à mettre à profit ce genre de choses-là, ou faudrait vraiment que ce soit la génération suivante dans 3-4
ans. Je pense que pour la génération suivante, ils font encore un petit saut, mais voilà, encore un petit saut timide. Ce qui fait que si tu prends là ce Pokémon aujourd'hui et que tu le compares au premier, tu vois l'évolution qu'il y a eu. L'évolution que tu vois moins si tu les prends les uns après les autres. Je sais pas si je suis clair, mais à chaque génération, tu sens qu'ils y vont par
petites touches. Oui, mais comme pour les FIFA, tu vois, entre FIFA 2001, FIFA 2002, FIFA 2003, FIFA 2004, il n'y a pas beaucoup de différence. Par contre, quand tu vas de FIFA 2001 à FIFA 2000... Attendez, non, il n'y a toujours pas de différence.
Après, le problème de Pokémon, c'est que c'est une série qui sort tous les ans, et on l'a bien vu avec...
Ce qui est un problème aussi.
Je vais pas dire FIFA, parce que c'est un cas à part, mais genre Call of Duty et Assassin's Creed, qui sont aussi annuels. Ils ont du mal à se renouveler. Et en plus, dans le cas de Pokémon, je trouve qu'il y a un cas qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une tendance à oublier, maintenant qu'on a 30 ans passés pour certains, j'en fais pas partie évidemment, c'est qu'en fait, eux, ils sont partis du principe que Pokémon, au bout de un ou deux épisodes canoniques, ils vont perdre une partie de leur public, parce que le public aura grandi et sera passé à autre chose. Et je pense que c'est clairement comme ça que c'était au début. Maintenant, il y a des gens qui sont revenus dessus un peu plus tard. Mais enfin, je sais que moi, techniquement, Pokémon, c'était en primaire, un peu au début du collège. Et puis en troisième, quand ils ont sorti Ruby Saphir, je l'ai fait. Je fais bon, Pokémon, c'est fini. J'ai plus envie d'y jouer. Et eux, ils sont toujours dans cette mentalité de se dire sans nouveau Pokémon, notre cible, c'est quoi? C'est les gamins de 9 ans. Et c'est aussi pour ça qu'ils peuvent.
Et du coup, de ce point de vue-là, c'est pas complètement déconnant de refaire à peu près, enfin, d'avoir des mécanismes qui évoluent relativement peu et qui soient simplement des améliorations qui sont de l'ordre de la qualité de vie, c'est-à-dire on t'indique très clairement l'effet de ce que tu viens envoyer, par exemple.
Ouais, c'est ça,
on te facilite la vie. Ou...
À mon avis, pour Game Freak, ils se disent, en fait, là, on vend 3 millions d'exemplaires, la prochaine fois, on en vendra peut-être à peu près autant, sauf qu'en fait, sur les 3 millions, t'en auras peut-être 1 million, c'est pas les mêmes personnes, tu vois. J'exagère peut-être un peu, mais en fait, je pense qu'ils visent le fait de renouveler, en fait.
Oui, tu renouvelles 20%, enfin peut-être pas 20%, mais tu renouvelles 10% du public à chaque itération, quoi.
Et c'est pour ça qu'ils peuvent pas se permettre de trop modifier la formule, c'est parce que c'est aussi une formule qui fonctionne auprès des enfants. Moi, c'est un truc qui je trouve très bien dans Pokémon, c'est que tout est compréhensible et limpide Enfin, pas tout, mais c'est relativement compréhensible et limpide quand t'as 10 ans, parce que le feu, il brûle le Pokémon Plant. Ah bah oui, tiens, c'est logique.
Et oui, alors après, il y en a des beaucoup moins logiques. Hein.
Ah oui, tiens,
on est bien pense, d'accord.
J'ai lu des gens qui se plaignaient de la facilité du jeu. Oui, le début est très facile si tu as fait les précédents et que tu connais ta table des types, justement. Je pense que si tu la découvres, bah, comme nous à l'époque, tu vas te casser les dents jusqu'à comprendre que le feu, ça crame une plante.
Oui, et d'autres trucs pas très logiques. Hein. J'insiste quand même parce que moi, j'avais cru comprendre que...
Il y a un moment, il faut équilibrer un jeu, en fait. C'est ça,
ouais,
le problème.
C'est ça. En fait, le caillou, ça pétait l'eau. Et j'étais là genre, oui, nique ta mère.
Alors, c'est l'inverse.
Non, c'est l'inverse.
Oui, bon, ça va. Commencez pas. Hein.
Ouais, et donc, oui, c'était au propos des types. Petit truc qui m'a fait rire. Donc, le scénario est un tout petit peu moins niais que d'habitude. Alors, au sens que les persos sont moins tête à claque. Ils sont un peu plus travaillés. Ça reste enfantin, faut pas non plus déconner. Même si le scénario de Blanc et Noir avait tenté quelque chose un peu plus adulte, qui était intéressante, mais qui n'ont pas été refaites après. Je trouve ça un peu dommage. Enfin bref. Dans celui-là, un truc m'a beaucoup fait rire, Corillon. Donc si vous voyez pas lequel c'est en gros un Pokémon branche de corail. Jusqu'aujourd'hui, il était de type eau et roche. Là maintenant, tu as le Corillon forme de Galar. Il a une gueule, il a l'air triste à mourir, il est complètement blanc délavé et il est passé de type fantôme.
Mais je vois qu'il y avait des trucs assez sympas dans les formes de Galar. Alors moi, je suis un grand fan du Smogo et du Smogogo façon lord anglais propriétaire d'une usine à charbon. Qui je trouve est un des trucs les plus incroyables qu'ils aient fait en design.
Celui-là a été montré, donc celui-là je m'y attendais, mais il y en a plein d'autres en fait qui n'avaient pas du tout été annoncés. Et quand tu tombes dessus,
qui ont ce style très british, c'est ça?
C'est ça, tu tombes dessus, tu fais, mais qui sont cons? C'est pas mal.
J'ai cru voir un monsieur mime assez dandy.
Ils sont cons au bon sens. Hein. Oui, et je pensais à un autre où il dit, mais ils ont mélangé ça avec un écossais, c'est génial.
Oui, alors effectivement, s'il y a un Pokémon qui ressemble à une cornemuse, ça peut devenir assez drôle.
Non.
Voilà, on nous dit que Nabila est quand même grave relou. Mais oui, mais comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie.
C'est... Oui, alors il est chiant, mais il est chiant.
Alors Nabila,
pour les
c'est
enfants,
lequel
pour moi, c'est le... Attends, Nabil, c'est le sidekick.
Ah, Nabil, c'est le frère du champion.
Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui jusque-là servait de rival, là il est plus c'est le tutoriel ambulant le mec.
c'est le tutoriel ambulant.
Non mais c'est tu sors d'une maison au début du jeu, il va te dire "Ouais, tiens, viens, il faut qu'on aille là." OK. Tu fais ça, 10 secondes après, "Bon, c'est bien, maintenant il faut qu'on aille là." OK.
Très bien. Pour sauter, appuie sur le bouton saut. Mm. Bref. Bon, mais c'était un peu, c'est pareil. Comme disait Antique, je pense qu'effectivement il y a un côté un petit peu adapté aux enfants aussi. Ouais. C'est quand même un petit peu le premier JRPG. Enfin JRPG.
C'est ça. C'est un truc qui les prend pas pour des débiles non plus. C'est
un peu le premier JRPG qui est accessible à n'importe quel gamin de 9-10 ans qui sait à peu près lire quoi.
Bah ouais, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, donc j'estime que ils ont pas changé, enfin de ce que je vois, ils ont pas changé. Et puis si tu veux encore un meilleur exemple de ça, il y a le dessin animé, hein. Et Ash, il a toujours 10 ans.
Ouais.
Oui, d'ailleurs ça commence à devenir un petit peu inquiétant, si ça se trouve c'est un psychopathe de 22 ans.
Dans le corps d'un enfant qui n'a pas grandi à cause d'une malédiction.
C'est possible, qui va ressusciter? Attendez, non, stop, on est en train de faire un JRPG, arrêtez s'il vous plaît. Voilà, donc on va s'arrêter là parce qu'on va parler un petit peu de ce qui s'est passé autour du jeu.
Autour, ouais.
Et il s'est passé beaucoup de choses et ça va nous amener à plein d'autres sujets, mais d'abord on va faire une petite pause Ring Fit. Ring Fit, à qui j'aimerais rendre hommage ce soir, parce que c'est quand même le jeu qui botte mon cul à peu près tous les matins.
Ça fait suer, hein.
Ah ouais, mais là, il y a un matin, il m'a mis une grosse race. Une très grosse race. Parce que Drago, cette espèce de grosse putain de saloperie de bâtard, là, à un moment, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai encore deux cœurs, ça va passer. Et le mec sort une double attaque, et là, il y a le Ring Fit lui-même qui me revient dans les boules, hein, le fameux splashback, je sais pas comment on appelle ça, mais il faudrait trouver un nom. Et du coup, je lâche la prise des abdos, et du coup, il me défonce ma race, et du coup, je dois recommencer le combat. Alors que j'avais déjà fait un quart d'heure et que j'étais bien transpirant. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommencé le combat, parce que...
Parce que j'ai... Merde!
Parce que voilà. Bref, donc voilà, on va écouter un petit peu de la bande originale de Ring Fit Adventures, qui est malheureusement pas terrible, mais du coup, voilà, ça c'est la musique d'intro qui est pas si mal que ça, et on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Et donc on va parler de review bombing et de pression, on va dire, sur les développeurs de la part plutôt du public, parce que les pressions sur les développeurs de la part des éditeurs, il y en a, hein, mais on
les
fans
un peu cons. Ouais, alors ça s'appelle, c'est ça, à peu près tous les jours au boulot, je pense, pour eux.
Malheureusement, je pense que c'est à peu près tous les jours au boulot. Donc le review bombing, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça consiste pour un groupe, on va dire, d'individus. Un groupe d'individus, c'est très con, pour un groupe de personnes, d'aller déposer des avis, alors soit très négatifs, soit très positifs, mais de manière très groupée et très soudaine. C'est-à-dire, l'idée du review bombing, c'est un petit peu de rusher un site communautaire type Metacritic, les revues communautaires de Steam, etc., etc., pour aller donner plein d'avis négatifs ou plein d'avis positifs, dans le but de faire apparaître une note dégueulasse sur le site pendant ne serait-ce que quelques heures, parce qu'évidemment, ça finit toujours par être modéré d'une manière ou d'une autre, pour attirer l'attention sur un problème du jeu, ou alors pour troller, hein, clairement, il y a des fois c'est ça, pour attirer l'attention sur un problème du jeu, ou pour au contraire attirer l'attention sur un jeu qui n'en a pas eu assez d'après certaines communautés.
Il y a aussi le cas de les développeurs ont dit un truc qui plaisait pas à une certaine frange de la communauté de jeux vidéo, ils ont décidé d'aller se venger.
Bah oui, voilà, il y en a un petit peu comme ça aussi. Bon, il y a des fois c'est un peu tristoun, il y a des fois non. Et donc, bah, Pokémon Sword and Shield s'est fait review bomber. Alors, la raison principale, et c'était le cas avant, il s'en est pris une très belle. Ça a été quand même assez violent. Parce que des review bombes, il y en a eu plein, en fait. Plein de jeux qui se sont fait comme ça, review bomber. Alors après, il y a des fois où c'est fait avec humour. Puis il y a des fois où c'est fait un peu différemment.
Il y a tout jeuxvideo.com.
Stop, c'est pas gentil. Non, mais sur Steam, ça arrive très souvent. Par exemple, il y a quelques années, il y avait un jeu qui repiquait énormément d'assets d'autres jeux, en fait, et qui avait été découvert par des joueurs. Un jeu qui avait été autorisé par Steam et dans lequel il y avait la Triforce. Les mecs avaient repiqué des morceaux d'autres jeux, en fait, des morceaux complets, des niveaux complets d'autres jeux qui avaient été repiqués et directement intégrés dans le jeu. Et donc, le truc s'était fait review bomber, mais en positif. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont dit putain, c'est extraordinaire tout ce qu'ont réussi à faire ces développeurs en si peu de temps. Voilà, donc c'était clairement du troll, mais c'était drôle et ça a attiré l'attention de Valve sur le fait que bah fallait peut-être aller retirer le jeu en lui-même parce qu'il y avait quand même quelques petits problèmes derrière.
Moi j'appelle ça du plagiat.
C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
On est désolé. Vraiment, on est désolé.
Ah, moi je le suis pas.
Non mais voilà, enfin ça peut être des fois très positif, ça a permis aussi d'attirer de temps en temps l'attention sur des vrais problèmes de jeu, hein, notamment Star Wars Battlefront s'est fait review bomber, et c'était à juste titre, faut quand même être honnête.
Il l'a mérité, hein.
Il l'a un petit peu mérité. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup attiré l'attention sur les problèmes du jeu, mais l'idée des joueurs derrière, c'était de dire, bah, votez avec votre portefeuille, oui, n'allez pas acheter le jeu. Maintenant, ça ne suffit pas, parce qu'il y a des gens qui vont l'acheter à l'aveugle sans avoir conscience de tout le grinding qu'on allait leur demander derrière. Donc le fait d'aller review bomber, ça permet d'aller attirer l'œil des gens qui vont aller sur Metacritic et se dire, bah tiens, il a 90% d'après la presse et 2 d'après les joueurs, donc il y a peut-être quelque chose qui va pas. C'est l'idée derrière le review bombing. Maintenant, du coup, ça pose quand même des petits problèmes, parce que Sword and Shield partait déjà mal parce qu'ils avaient dit qu'ils faisaient pas tout le Pokédex. Du coup, les développeurs ont quand même... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont subi quand même énormément de pression de la part des joueurs, jusqu'à ce qu'il y ait un événement au Japon. Alors, c'est au Japon ou c'est au...
C'est au Japon.
Ouais. C'est au Japon qui soit annulé parce que les mecs avaient peur pour leur sécurité.
Apparemment, il y a eu des vraies menaces de mort qui ont été envoyées.
C'est quand même. Enfin, là, on commence quand même à tomber dans le grand n'importe quoi.
Yes.
Malheureusement. Surtout que dans le cas de Pokémon, la raison pour laquelle certains joueurs se sont offusqués, c'est parce qu'on avait retiré une partie du Pokédex. Hein.
Alors que visiblement, ce que tu nous disais Antix pendant la pause, c'est pas la première fois que ça arrive.
Oui, ben, comme ce que j'avais précisé, c'est qu'en fait, déjà dans Ruby et Saphir, il manquait pas mal de Pokémon, et dans Noir et Blanc aussi.
Oui.
Et en fait, Noir et Blanc est considéré comme un très bon épisode, de mémoire. Oui.
Et jusqu'à présent, ça posait pas tant de problèmes que ça, en fait. Le fait qu'il manque des Pokémon, bah voilà, c'est... À un moment, 800 Pokémon, c'est impossible à maintenir. Je comprends aussi que les développeurs aient des impératifs qui font que s'ils passent 2 ans de plus à développer le jeu juste pour rajouter les Pokémon, c'est quand même un peu dommage.
Alors, il faut être honnête, j'ai peut-être froissé du monde, mais il y en a quand même une bonne partie qui était dégueulasse hein, dans les derniers.
Non, et puis c'est bien, ça t'oblige à jouer avec d'autres Pokémon, tu vois.
Oui, du coup, d'autres possible.
Alors après, il y a quand même un petit souci aussi, c'est que les gens se sont rendus compte, et ça a été une partie de la source du review bombing. Hein,
ça, ils sont mal démerdés.
Ils sont mal démerdés puisque apparemment les modèles qui sont utilisés dans Sword and Shield sont les modèles future-proof qui étaient déjà utilisés dans Sun and Moon.
Oui.
Pas de bol. Donc en fait, les gars ont fait du recyclage d'assets et il y a tout un tas de gens qui ont dit « Mais attendez, je suis désolé, si vous avez juste fait du recyclage d'assets, c'est un peu dégueulasse de ne pas avoir laissé les anciens Pokémon. » Mais ces gens-là ont oublié les problèmes d'équilibrage quand même.
Bah, l'excuse, enfin, le problème de tout ça, ça a été l'excuse qui était « on a besoin de temps pour faire les meilleures animations possibles. » Et bon, les animations sont pas fantastiques dans le jeu non plus, quoi, on va pas se mentir.
Non, elles sont pas dingues.
Par contre, j'ai vu des jolis effets, genre ultra laser ou hydrocanon, ça a de la gueule. Hein. Vraiment.
Oui, comme s'ils avaient mis tout le focus sur les effets graphiques des attaques. Ça, je suis d'accord.
Et il y a les Dynamax aussi à gérer, je pense que ça a joué.
Voilà, mais du coup, est-ce que vous pensez que le review bombing, c'est quelque chose qui est... légitime, parce que finalement ça ressemble un petit peu à une forme de manifestation, quoi. On pourrait appeler ça une espèce de protestation. Alors, des fois à juste titre, des fois non, mais vous pensez que c'est le genre de truc qui est souvent à juste titre ou qui est quand même beaucoup plus du troll?
Je pense qu'on peut recenser d'autres cas de Pokémon aussi qui sont intéressants et qui sont pas forcément des cas positifs. Enfin, en tout cas, pas à mes yeux. Il y a 2 cas qui me viennent en tête. Enfin, 3 cas même. Donc, un des plus connus, parce qu'il y a eu un effet, ça a été Mass Effect 3, qui s'est fait apparemment review bomb. Alors, je pense qu'à l'époque, c'était pas encore trop la mode. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, Mass Effect 3, c'est donc la conclusion de la trilogie Mass Effect. Et les gens s'attendaient à une conclusion grandiose. Pas de peau, c'était pas terrible, hein, clairement.
Oui, on me demandait de choisir entre vert, bleu et rouge, en gros. C'est
ça. Ouais, si on voulait être caricatural, ce serait ça. Moi, j'aurais une tendance à répondre qu'en fait, le problème, il est dans le jeu en lui-même, mais bon. Voilà, le truc, c'est que, en fait, le review bombing est probablement fait partie des manifestations, mais surtout, les joueurs ont eu gain de cause. C'est-à-dire que 3-4 mois après la sortie du jeu, une mise à jour du jeu sortait avec une fin améliorée. Entre guillemets, une version un peu Director's Cut de la fin, qui n'est pas très différente. Au final, c'est juste qu'ils ont rallongé quelques scènes et offert des explications supplémentaires sur le devenir de certains joueurs. Et celui-là, il est assez intéressant parce que derrière, en fait, il y a eu une réaction de développeurs, à tort ou à raison, ça c'est autre chose. Mais du coup, celui-là, il est pas mal. Un de ceux, moi, qui m'était revenu en tête quand on en a parlé, c'était Firewatch.
Il y a eu un truc sur Firewatch.
Alors oui, il s'est fait review bombé et alors je me souvenais plus pourquoi, mais je savais que c'était pour quelque chose qui n'avait aucun rapport avec le jeu. Et donc en cherchant l'histoire, j'ai trouvé l'article de Eurogamer, donc ça de septembre 2017, c'était il y a 2 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les mecs de Campo Santo, le studio de développement de Firewatch, ont demandé à ce que tout le contenu lié à Firewatch qui avait été fait par le youtubeur PewDiePie, donc le plus grand youtubeur,
en termes d'audience,
le plus gros youtubeur soit retiré, parce que le mec avait proféré des insultes et notamment utilisé le mot nègre durant ses streams. Et en fait, la communauté de PewDiePie, elle était pas contente, donc elle a review bombé le jeu.
Putain, mais ils sont pour rien.
Quoi. Sur Steam. Elle a review le jeu sur Steam. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça a fait réagir Valve par rapport aux reviews des jeux sur sa plateforme. Donc, ce qui prouve quand même que c'est un review bombing qui a quand même une importance assez majeure. Alors je pense aussi parce que Valve avait peut-être déjà racheté Campo Santo à l'époque ou était en train de les racheter. Ils ont changé en fait leur système de gestion des scores sur les pages, parce que en fait sur les pages de la boutique de Steam, sur les pages des jeux, tu peux donner une review. Donc celle où c'est fait le review bombing. Et en fait, ils ont changé un petit peu pour dire, ben voilà, si on détecte un pic d'avis négatif ou positif, ben on va supprimer tout ça.
D'accord, et je suppose qu'ils l'ont plus ou moins automatisé, je suppose, histoire que ce soit
pas
trop...
C'est Valve, il n'y a pas de modérateur humain, donc oui. Ouais. oui. Mais je trouve que c'était un des plus intéressants, parce que ça part déjà d'un truc qui n'a aucun rapport avec le jeu, mais vraiment aucun. C'est un choix des développeurs, et ça a une conséquence sur Steam, qui est la plus grosse plateforme de jeux PC, donc c'est un cas que je trouvais intéressant de parler, parce qu'il est aussi assez... révélateur de parfois que l'arme peut être le review bombing, c'est-à-dire que parfois c'est aussi pour des raisons qui ne sont pas forcément du jeu, mais des à côté ou une façon un peu de punir les développeurs entre guillemets, quoi.
C'est quoi ton troisième, parce que tu vois une conséquence là-dessus?
Alors le troisième
Recherche dans ses notes.
Alors Monsieur Recherche dans ses notes, sur le cherche sur la page Wikipédia. Le troisième, c'est un cas un peu plus général, qui est apparemment ça. Donc il y a l'Epic Game Store qui a ouvert l'année dernière. Et il y a eu pas mal de review bombing sur des jeux exclusifs Epic Game Store, notamment le dernier Borderlands ou Metro Exodus, qui à la base devait sortir sur Steam et que les mecs ont décidé à la dernière minute de changer de crèverie.
Oui, et donc évidemment, comme ça sort pas sur ton store préféré, ce qui est quand même la meilleure excuse du monde, hein, on est bien d'accord, et tu vas aller review bomber le truc.
Ouais, c'est ça. Alors je pense que ça a été fait sur Metacritic, ça, et pas sur l'Epic Game Store, je sais pas si tu peux...
Semble pas...
L'article Wikipédia précise pas où ça a été fait.
Je sais pas. Mais du coup, si tu veux, j'enchaîne sur la partie Metacritic. Le gros, mais alors vraiment gros problème que j'y vois... C'est que aujourd'hui, alors ça a été révélé avec la sortie de Fallout New Vegas, mais aujourd'hui les équipes de dev ont des bonus qui sont basés sur le score Metacritic.
Alors c'est Metacritic Press, pas joueur. Dans ce cas-là, de mémoire.
Ok, du coup ce que j'allais dire ne marche pas.
Parce que si... Non, alors c'est pas. Non, je vois tout à fait ce que tu allais dire. Jusqu'à présent, effectivement, les gens qui ont des bonus en fonction du truc Metacritic, alors je précise bien, c'est quand même juste des bonus. Mm-hmm. Leur salaire normal tombe normalement, mais encore effectivement heureux. Il peut avoir des
encore ouais, enfin en même temps quand tu passes une période de crunch, ton bonus tu l'espères, quoi.
Oui, non, clairement, voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui c'est pour ça qu'il y a quelques développeurs qui sont j'ai l'impression qu'il y a énormément de pression dans ce cas-là sur les développeurs aussi pour faire le truc qui va être le mieux, qui va obtenir les meilleures notes, et du coup qui va peut-être pas forcément être le plus original.
C'est ça. Ça flingue la créativité.
C'est un truc, c'est des coups à flinguer la créativité.
Tu flingues la prise de risque.
Exactement. C'est-à-dire que si tu risques de vexer une partie des joueurs, alors à tort ou à raison, hein, c'est à la limite... je me dis que le review bombing d'un truc comme Star Wars Battlefront, c'est parfaitement justifié, parce que c'était une honte, ouais. Et puis c'était pour l'éditeur. Le pauvre développeur derrière, finalement, il a fait que ce qu'on lui a demandé. Et puis généralement, le développeur, malheureusement, il fait que ce qu'on lui a demandé. Et avec les moyens qu'on lui donne, en plus, alors,
je pense qu'en plus, dans le cas de Star Wars, les développeurs, ils ont pas trop eu leur mot à dire. Parce qu'entre Electronic Arts et Disney.
Ouais, Mais que Disney, apparemment, était pas particulièrement ravi de la tournure du truc non plus. Hein.
Ah bah non, parce que c'est une de ses franchises phares, donc eux, comme leur but, c'est de faire de la thune sur des franchises connues, quand t'as un truc qui s'appelle Star Wars qui est en train de se faire défoncer, ils sont pas contents.
Voilà, mais c'est pour ça qu'aussi, je pense que le review bombing a quand même des vertus, alors même si effectivement, de temps en temps, ça a été utilisé par clairement des communautés de trolls, hein, voilà, genre PewDiePie, Dos Campos qui demande à ce que les vidéos de PewDiePie sur Firewatch soient retirées parce que PewDiePie est un sale con. PewDiePie est un sale con, c'est pas la question.
C'est un fait, oui.
C'est un fait, effectivement. Donc, de toute façon, ça coûte pas très cher que la communauté des mecs qui suivent PewDiePie et qui suivent PewDiePie comme si c'était le Messie soit des gens pas très malins. Ok. Maintenant, la question, c'est pourquoi Dos Campos a pas juste fermé sa gueule, parce que finalement, je vois pas bien le rapport, et puis faire un 6 and 6 sur YouTube, tu vois, c'est quand même. L'imbrication complète me fait dire que finalement on récolte un peu ce qu'on sème aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire que oui, PewDiePie est un sale con, maintenant le fait de ne rien faire, ça permet, enfin le mépris est souvent la meilleure forme de réaction dans ce cas-là. Voilà. Donc c'était peut-être pas hyper malin de leur part non plus d'aller, d'aller faire chier le monde, sachant qu'il y allait forcément y avoir des gens qui allaient prendre ça mal. Bon. On va dire que c'est un point de vue. Mais de temps en temps, je pense que ça peut être une arme utile, parce que ça va au moins attirer l'attention de l'éditeur. Ça va créer, on va dire, une publicité, bonne ou mauvaise, après ça va dépendre, ouais. Mais qui va potentiellement faire réagir l'éditeur sur le truc, en se disant, bah voilà, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu, il y a peut-être effectivement une partie non négligeable de la population, de joueurs ou de potentiels joueurs de ce jeu-là, qu'on a négligé, ou qu'on a franchement vexé, ce qui arrive aussi de temps en temps.
Après là, je pense qu'on parle entre initiés, parce que le coup de la mauvaise pub... oui, le dev, ça va lui faire un pincement s'il a l'impression qu'on chie sur son boulot alors qu'il a juste essayé de proposer quelque chose. Clairement. Si c'est un peu plus politique, c'est un autre sujet. Mais l'impact sur le grand public, j'y crois pas une seconde. Quoi.
Alors, visiblement...
Totalement pas, voilà, moi, je pense.
Visiblement, d'après les stats de Steam Spy, quand ça existait encore, en fait, le review bombing changeait pas grand-chose au jeu. Oui. Et au contraire, même les review bombing négatifs avaient tendance à booster les ventes des jeux parce que les gens l'achetaient pour voir pourquoi est-ce que les autres gueulaient. Quoi,
comme dirait un mec en marketing avec un peu de cynisme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pub, il n'y a que de la pub.
Bah, c'est un peu ça, mais comme je le disais au début, voter avec son portefeuille, oui, mais des fois c'est pas suffisant et il faut aussi gueuler un peu plus que ça. Mmh. Alors je suis certain que c'est pas la meilleure manière de gueuler. Je veux dire, c'est comme gueuler sur Twitter, hein, ça ne sert à rien. Parce que tout le monde gueule sur Twitter en fait pour tout et n'importe quoi. Mais il y a tout un tas de gens qui... Battlefront, ça avait fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et le fait que le truc se fasse review bomber à un moment, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de gens qui disent « Bon, les gars, va falloir quand même qu'on arrive à obtenir une réaction de la part d'Electronic Arts. » En dehors de « il y a quelques journalistes qui gueulent, il faut que nous, communauté, qui avons finalement relativement peu de moyens de nous exprimer. » Il faut voir que la moyenne des gens aujourd'hui a finalement assez peu de moyens de s'exprimer, à part ces sites ouverts dans lesquels tu as... la possibilité de mettre une note, de mettre quelque chose qui est en fait visible de tous. C'est plus ça qu'il faut voir. Mmh. Parce que bah, tu peux écrire quelque chose sur ton blog, s'il y a 3 personnes qui le visitent, ça ne fera pas beaucoup d'effet. Même s'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur leur petit blog ou sur leur petit compte Twitter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne fera pas nécessairement beaucoup d'effet. Ça en fera peut-être, enfin sur Twitter, ça en fera pendant quelques heures et puis après c'est fini. Quoi. Là, l'avantage du review bomb, c'est que bah, ce n'est pas des événements qui sont fréquents. Les modérations sur les sites type Metacritic, Steam, tout ça sont rarement automatiques, sauf alors Steam maintenant visiblement.
Oh mais oui. Steam, il y a quasiment pas de modération. Hein. C'est pour ça que t'as des jeux qui passent avec des swaps d'assets. Hein.
Oui, complètement. Mais je pense que ça doit quand même se voir à un moment parce que c'est même depuis Firewatch septembre 2017, il y en a eu d'autres sur Steam.
Ah oui. Alors, oui
avec non, des mais, échelles plus ou moins grandes, mais donc je pense que ça permet aussi de donner un peu de visibilité des fois à des problématiques. Et effectivement, ça permet à des armées de trolls. De dire que ouais. Pokémon Sword and Shield, c'est la honte techniquement. Enfin, en même temps, vous attendiez à quoi, les gars?
C'est pas l'intérêt du truc, tant pis. Je trouve le principe un peu facile, quoi. T'as juste à cliquer sur 0, point, t'écris 2 merdes et terminé. S'il fallait te casser à justifier ton avis, ce serait pas le même délire.
Bah, surtout pour des gens qui boycottent de facto le jeu parce qu'ils considèrent qu'ils votent avec leur portefeuille.
Ouais, bon alors pour Pokémon, boycott vite fait, hein, parce qu'il a... Oui, il a plutôt bien marché, le machin.
Plutôt bien marché. Mais il y a eu comme ça sur... je crois que c'est sur jeuxvideo.com où il y a eu quelques review bombes, notamment, alors, me semble-t-il, Ghost Recon Breakpoint, qui avait été bien noté par jeuxvideo.com, mais parce que, ben, malheureusement, c'est jeuxvideo.com, c'est pas le site le plus fiable du monde, et qui avait été descendu par les lecteurs, mais alors d'une puissance assez phénoménale. Et là, encore une fois, c'était... plutôt à juste titre, c'était pour dire attendez les gars, vous pouvez pas mettre 17 à ce jeu là, c'est pas possible quoi. Donc c'était une réaction qui était non pas au jeu mais qui était vraiment une réaction à la note de jeuxvideo.com qui était effectivement un petit peu délirante pour un jeu qui s'est fait par ailleurs descendre un petit peu partout quoi. C'est la dissonance plus que le reste qui a été puni.
Ah, tu vois, le truc que je comprends fondamentalement pas, c'est que ce genre de site de notation te permet de balancer ton avis alors que le produit est pas encore dispo, que ça soit pour un jeu ou pour un film.
Oui, ça fait partie des...
Bienvenue sur Internet. Hein. J'ai en tête Joker, donc un film que j'ai beaucoup aimé, où c'était la guéguerre, les gens qui se battaient justement à coups de review. Le film n'avait que montré sa bande-annonce.
Les mecs faisaient la review de la bande-annonce.
Ça, mais c'est ce fameux message du chapitre 3 de Super Paper Mario quand tu dois rentrer dans la salle du boss,
ouais.
Où il te demande mais qu'est-ce que je préfère, ben, c'est aller me plaindre sur internet, sur des forums, me plaindre de jeux auxquels je n'ai jamais joué.
Bah après, on l'a tous fait, faut être honnête. C'est tous plein de trucs auxquels on a jamais joué. La question, c'est de l'exprimer publiquement ou pas.
C'est ça, par c'est exemple, moi, je me
plains que Shenmue, c'est de la merde. Globalement, j'ai dû y jouer 10 minutes.
Déjà, t'y as joué, tu vois.
J'ai touché une manette de Dreamcast, j'ai dû toucher une manette de Dreamcast 20 minutes dans ma vie, 10 minutes pour jouer à Shenmue, 10 minutes pour jouer à Soul Calibur.
Alors ça va, il y avait au moins 10 minutes qui étaient bien.
C'est à peu près ça, ouais. Mais voilà, je me plains de Shenmue alors que j'ai pas expérimenté le truc du tout, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit de le faire. Mais du coup, ça m'a pas du tout tenté. Maintenant, je vais pas aller bomber le truc sur Metacritic parce que je vois pas l'intérêt d'aller.
Pas que ça à foutre, on a des jeux à jouer.
C'est un peu ça, non mais ouais, voilà. Enfin, c'est-à-dire que mon cauchemar en ce moment, c'est que mon backlog vient m'attaquer dans la nuit. Hein. On est quand même à peu près là.
Ah bah là, je crois que toute ta famille y passe. Hein.
Il y a moyen. Mais bref, donc je trouve ça intéressant. C'est un peu le truc à double tranchant, finalement les attaques par déni de service distribuées qui servent aussi. Il y a des gens qui avaient défendu ça en disant bah oui, mais c'est une manière de protester finalement. C'est-à-dire que protester dans la rue devant le siège de la grande société du CAC 40 parce qu'on n'est pas d'accord, bah ça fonctionne entre guillemets. Mais le fait de rendre leur site inaccessible, bah, ça fonctionne aussi. Et j'ai l'impression que le review bombing, c'est un peu vu comme ça. Et le problème, c'est que c'est aussi utilisé par des trolls, et quand même plus souvent par des trolls que par des avis légitimes.
Ouais, puis il y a un autre truc qui est important, je pense aussi, c'est qu'on a parlé de review bombing, mais faut se dire que souvent, avec le review bombing, ça va s'accompagner d'autres éléments. Tout à l'heure, on parlait du truc de Pokémon qui a été annulé, entre autres pour des rumeurs de menaces de mort. Faut quand même se dire que... dans certains cas, en plus du review bombing, tu vas avoir effectivement des personnes qui vont aller s'attaquer directement aux développeurs.
Ah non, là, on touche au summum de la débilité.
Oui, voilà, mais il faut se dire que parfois, dans certains cas, le review bombing s'accompagne aussi d'une...
Oui, d'autres campagnes de dénigrement.
D'autres manifestations
parfois violentes.
Qui sont beaucoup plus violentes pour les personnes qui sont attaquées. Alors évidemment, après, j'ai pas envie de donner des noms ou d'exemples parce que. Par rapport à ce qui s'est passé, pour moi, ça reste plutôt des suppositions, mais je serais même pas étonné que dans les messages de review de Camposanto, il y ait des attaques directement sur les développeurs, avec des insultes.
Mais après, c'est toujours pareil. Il y a des choses que tu peux dire sur le ton de la plaisanterie. Enfin, je veux dire, même nous, au Dojo Bar, de temps en temps, on a dit des choses pas très gentilles sur des gens comme Julien Chiez et tout ça. Il se pourrait que le mec le prenne mal, hein. Parce qu'effectivement, techniquement, on l'a insulté, et c'est une réalité. La question, c'est jusqu'où va le second degré? Quand effectivement, t'as 25 personnes sur la page Metacritic qui disent « tous les développeurs peuvent aller se pendre tellement ils sont mauvais », je comprends que quand tu fais partie de l'équipe de développement, que tu sors d'un projet qui est pas forcément toujours marrant, être développeur, on l'a vu, c'est pas toujours évident.
Mmh. Bon. Bah, les mecs, généralement, ils ont passé plusieurs années sur le jeu, et ils se font pas forcément dans de super conditions, donc ouais, effectivement, je pense que se taper une pluie de reviews négatives pour parfois, en plus, à mon avis, des choix qui ne sont même pas
qui
les choix des développeurs,
meilleurs.
Qui ont peut-être été imposés par l'éditeur, et ça, on a une tendance à l'oublier, mais tous les développeurs ne sont pas indépendants et dépendent d'un éditeur. D'ailleurs, je pense que pour Star Wars Battlefront, le problème, c'était plus Electronic Arts que DICE, mais bon.
Ah, mais clairement.
C'est un peu l'idée, c'est que parfois, voilà, le review bombing, je pense que pour les développeurs qui ont effectivement passé 2 années de leur vie sur à développer un jeu, voire plus, c'est aussi, quand c'est négatif, ça peut être ça peut provoquer une forme de dépression ou de mal-être par rapport à ce qui a été fait, parce que du coup, on se rend compte que les gens ne sont pas satisfaits de ce qu'on a fait, et même si parfois c'est genre une masse bruyante, une petite masse bruyante et pas qui n'est pas majeure, qui n'est pas représentative de la vie générale des gens, quand c'est que ça que tu vois, je pense que ça te mine le moral, quoi.
Mmh. Ouais, oui, Oscar avait fait un chouette thread là-dessus, disait mine de rien, Game Freak, il y a pas mal de gens qui commencent à être fatigués de leur côté, et ouais, ce genre de truc, ça les encourage pas à sortir les doigts pour l'épisode d'après.
Bah, c'est-à-dire que ça finalement l'effet voulu. Les mecs manifestent leur mécontentement, ce que je peux. Enfin, voilà, je peux comprendre que les mecs manifestent leur mécontentement. Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire? Certainement pas, d'autant plus que c'est quand même rarement constructif, c'est ça qui est un peu dommage.
Ouais, voilà, il faut que ce soit constructif. Être critique et constructif, c'est intéressant.
Bah après, des fois, être critique et pas constructif, c'est intéressant aussi. Tu peux pas nier le fait que de temps en temps, être pas du tout constructif. Hein. L'article qu'avait fait Tardigrade pour dire, bah nous aussi, on a gagné un voyage en hélicoptère autour de Las Vegas, c'était absolument pas constructif. Mais
ça dénonçait un peu. Ouais.
Ça dénonçait. Mais derrière, je peux comprendre que les gens qui étaient invités et qui pensaient pas forcément à mal le voient mal. Maintenant, s'ils ne voient pas le mal qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a peut-être un gros problème aussi. Donc, je dis pas qu'il faut interdire toute forme de protestation ou quoi que ce soit.
Non,
je dis juste
pas.
Que, ben voilà, mais la problématique, c'est que entre, on va dire, l'humour, enfin entre le second degré
et la rage pure.
Et la rage pure, il faut arriver à trouver un juste équilibre qui fait que t'arrives quand même à faire passer l'opinion sans mener des gens à la dépression. Et effectivement, c'est peut-être pas si évident.
Ni les menacer d'aller buter leurs enfants ou atteindre à leur vie.
Ouais, oui, ça reste que du jeu. Hein,
après, ça reste que du jeu. C'est-à-dire que moi, effectivement, de toute façon, la limite, c'est toujours la menace physique des gens. Enfin, c'est des choses qui ne se font pas. Et puis, aller dire aux gens, allez vous suicider, c'est des choses qui ne se font pas de manière générale. Quoi qu'il arrive, c'est même sur le ton de la plaisanterie, c'est pas quelque chose qui se fait. Et de toute façon, le ton de la plaisanterie par écrit et sur Internet, c'est quand même très rarement facile à percevoir, hein, sans déconner.
Mais ça. Bon, voilà.
Donc je pense qu'un jour on réouvrira peut-être ce petit chapitre, alors pas forcément sur les viewbombing, mais sur les pressions que subissent parfois les développeurs en cours de jeu.
Je sais pas, ça
sont
dépendra
parfois
de...
positifs, parfois négatifs, parce qu'il y a des fois où il y a eu des effets positifs. Hein,
parler de pression dans un bar, moi je trouve ça pas mal.
Et ben voilà, en plus c'est parfait. Mais en attendant, on va se quitter parce que cette émission a duré beaucoup trop longtemps comme d'habitude. Nous nous retrouverons donc dans 2 semaines, ce sera potentiellement la dernière émission de la saison. Elle va se terminer exceptionnellement un peu plus tôt que d'habitude pour une raison très simple, c'est que je déménage, il va falloir que j'emballe mon PC.
Ah oui, ça, c'est une bonne raison.
C'est une bonne raison. Et c'est vrai que plutôt que je le fais, mieux c'est. Donc potentiellement, dans 2 semaines, c'est la dernière. Ou alors, on va y réfléchir éventuellement, peut-être qu'on fera la prochaine émission dans 3 semaines, histoire que ce soit vraiment mi-décembre et pas tout début décembre. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que la plus grosse partie des jeux de l'année sont sortis, puisque nous sommes enfin sortis du tunnel de septembre.
Ouais, on peut dépiler.
Le ciel de septembre qui s'est fini un 13 novembre.
Qui s'est fini, oui, qui s'est fini avec Pokémon, hein, faut quand même être honnête, ça a été très 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 compliqué. Voilà, je pense qu'on peut se permettre de terminer la saison un petit peu plus tôt, donc on verra ça, on vous tiendra au courant, quoi qu'il arrive.
D'autant qu'on avait repris plus tôt.
Effectivement. Et puis on avait fait plus d'émissions au mois de septembre, justement pour compenser le tunnel, pour compenser l'effet tunnel. Donc voilà, quoi qu'il arrive, vous nous retrouvez là.
On va se prendre un review bombe.
Putain, mais si sur. Alors les gars, allez-y, hein, si sur. Comment dire. Sur Apple ou Google, machin truc, je sais pas quoi de podcast, vous voulez nous mettre des notes hyper négatives, mais mettez-en plein, mettez-en plein. Ça va nous aider. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Et donc, voilà, quoi qu'il arrive, vous nous retrouvez la semaine prochaine en podcast et potentiellement 2 semaines, peut-être 3 semaines pour la dernière émission de l'année où on fera comme d'habitude 1 million de l'année et où il y aura un jeu à gagner. J'annonce tout de suite, il y aura un concours et il y aura un jeu à gagner.
Attends, il y a quoi comme Sonic qui est sorti cette année ?
Alors, ce ne sera pas un Sonic.
Ah, mais il y a le film qui sort le 20 février prochain.
2 places pour le film. C'est bâtard. D'ailleurs, j'annonce tout de suite que l'équipe du dojo tout entière est cordialement invitée à se rendre à Sonic le film. Moi, je paye les places.
Oh putain, il a pas oublié.
Ah, c'est le nouveau, va te faire.
Je vais le faire, je m'en fous. Et je vais payer en liquide, parce que quand tu fais une connerie, c'est important de sentir le pognon qui fout le camp.
moi, si c'est payé, à la limite, je te suis. Hein.
Mais c'est bien ça, c'est bien ça.
Et on fera un dojo review de qualité.
Je compte le journalisme total, hein. C'est-à-dire qu'il faut y aller en cosplay et tout. Hein.
Oh merde.
Alors moi je fais cosplay all design du film pour plus de cringe et de, et de trash. Yeah.
Alors j'ai vu un mec sur Reddit qui avait fait un costume d'Halloween old Sonic movie ou je sais pas quoi. Et effectivement c'était la crispation. C'était vraiment... c'était assez extraordinaire. Bref, je vous parlerai en off d'un autre costume que j'ai vu qui m'a beaucoup fait rire, mais en on, je ne peux pas, ce serait problématique. Bref, donc, quoi qu'il arrive, on se retrouve la prochaine fois, on fera le bilan de l'année, il y aura un jeu à gagner, je ne vous dis pas le jeu, il y aura un concours, il y aura un truc, et ce sera comme il faut. JBC, oui, tu peux venir, si tu es motivé et que tu es sur Paris, tu as le droit de venir. Bref, on vous fait des gros bisous, et on vous retrouve très bientôt, du coup, potentiellement dans 2 semaines, voilà. Ciao tout le monde.
Bisous.
Bye.